Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc l'art, c'est vraiment ce qui m'a permis de réconcilier mes identités et de la consolider, c'est le ciment, c'est dans mes veines, mais c'est aussi, ça a été beaucoup une thérapie quand je pouvais pas parler de mes traumatismes, en fait je le dessinais. C'était un moyen de mettre en forme ce que j'avais en moi et qui était un magma de choses négatives et traumatiques. Et les sublimer par l'art, ça laissait sortir de moi, quoi. L'art a vraiment été thérapeutique, finalement. Et aujourd'hui, c'est identitaire parce que ça, pour moi, ça cimente mon identité. Je peux tout réconcilier avec ça.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
J'appelle Marie-Odile, j'ai 27 ans, mais j'en parlais beaucoup moins. J'habite à côté de Paris depuis à peu près 6 ans. Ma mère est brésilienne, mon père est français. J'ai étudié l'art, mais j'ai eu un parcours un peu chaotique. J'ai fait sciences, j'ai voulu être scientifique dans la pharmaceutique, dans la chimie fine, puis après dans les nanotechnologies appliquées à la médecine. Finalement, j'ai voulu faire du commerce. Et je me suis rendu compte que ma première passion, ça a toujours été l'art, et du coup, je pouvais en faire un métier. Donc maintenant, je suis dans l'art. Passionnée d'art, souvent qualifiée de sexy, c'est toujours ce qui revient tout le temps. Malgré moi, souvent, je vais toujours être fouée dans les musées, les expos, choses comme ça. Je ris très fort, beaucoup. Je dis des choses gênantes, souvent. Et des blagues qui bident. Et je danse aussi partout.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance ?
J'ai déménagé assez souvent. Je suis née en Guyane, à Cayenne, où ma mère était déjà, et où elle a rencontré mon père. Mon père était ingénieur en agronomie tropicale, spécialisé dans la génétique. Donc c'est quelque chose qui est assez en moi, la génétique. Lui, il a fait le tour du monde. Il connaît mieux le Brésil que ma mère, qui est brésilienne. Son rêve, c'était de vivre en Europe, donc elle était déjà en Guyane, ils se sont rencontrés là-bas. Je suis née là-bas, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs, juste des photos de moi et la jungle derrière. Donc souvent, quand je dis aux gens « je viens de la jungle », ils rigolent, mais en vrai, c'est un peu ça. Parce que j'ai littéralement des photos de moi, blanche, bébé, et la jungle derrière. Ensuite, j'ai déménagé à l'île de la Réunion, à Sainte-Clotilde, c'est mes premiers souvenirs. Où j'y suis arrivée, j'avais 2 ans, j'y suis restée jusqu'à 5 ans. J'avais une amie imaginaire, c'était une petite indienne d'Amazonie, comme quoi le Brésil est resté en moi. Et j'étais blanche, très très blanche, blonde. J'ai eu des cheveux que très tard, vers 2 ans, comme ça. Et en fait, à la Réunion, les enfants, ils voulaient pas jouer avec moi, parce que j'étais blanche. À la crèche, plutôt. Comme on voulait pas me changer, on me laissait dans ma couche toute la journée. Ou alors on me changeait avec mes propres vêtements. Ce qui était très très gênant pour ma mère, qui me cherchait. Elle me disait, mais pourquoi ? Et juste comme ça, parce que j'étais un bébé blanc. Donc ces premières expériences de confrontation, même si je veux pas voir les couleurs, ben, je suis obligée de les voir par ce prisme-là d'histoire, puisque quand j'étais à la Réunion, si ma mère me reprenait ou allait me mettre une fessée, bon je sais que c'est interdit de mettre une fessée maintenant, mais bon à l'époque c'était pas le cas. En public, si je faisais une crise comme un enfant qui se met à crier et qu'elle commençait à me disputer, le monde s'arrêtait de marcher. Parce que ma mère est métisse, et du coup tout le monde pensait que c'était ma nounou. Et du coup ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cet enfant blanc ? Et tout le monde recommençait à marcher quand je disais maman. Et je sais que c'est quelque chose qui l'a fait souffrir. J'ai une relation très... c'est une des raisons pour lesquelles j'ai une relation très, très forte, et je suis très proche d'elle. Parce que j'ai un peu envie de penser de ses blessures et dire, bah non, t'es ma maman. Même si tout le monde disait que j'étais pas sa fille. Je suis arrivée en France métropolitaine vers 5 ans, 6 ans, du côté de Montpellier. Ensuite, à côté de Montpellier, un village. On était un peu un cliché, quoi. Parce que mon père, il a 25 ans de plus que ma mère. Donc on est dans le cliché femme exotique avec homme plus vieux français. C'est très cliché. Et même que ça a été très mal accepté du côté des enfants de mon père, au début. Parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les femmes exotiques qui sont avec des hommes plus âgés pour des raisons financières. Mais en l'occurrence, ça me touchait pas plus que ça quand j'étais petite. Et puis en grandissant, j'ai compris. parce que c'est une logique différente par rapport à la condition des femmes en Amérique du Sud, que moins d'accès à l'étude donne plus d'importance à un beau mariage. Qui dit un beau mariage dit la sécurité et la possibilité de donner à ses enfants une stabilité et la possibilité de faire mieux. Mais après, j'ai compris leur histoire et c'est pas que ça, parce que clairement ma mère elle voulait pas se marier, elle voulait pas d'enfants. Et j'ai compris que plus tard que c'est pas parce qu'elle voulait pas se marier et qu'elle voulait pas d'enfants qu'elle nous aimait pas, mon frère et moi, ou qu'elle aimait pas mon père, c'est même tout le contraire. C'est un amour construit. Donc aujourd'hui, ils ont toujours un 5 ans d'écart, mais par exemple, c'est ce qui permet qu'elle s'occupe de lui maintenant qu'il est très âgé et qu'il a pas tous ses moyens. Donc on était très clichés dans le village, parce que c'était un petit village. Mais j'ai de bons souvenirs, pour le coup. Là, on m'a pas trop posé de questions. C'est juste on me donnait jamais... on me validait jamais ce qui était. C'est-à-dire, mon père, c'était jamais mon père. Quand on danse, c'était, il y a ton papy qui est là. Non, c'est mon papa. Tu le vois toutes les semaines. Au bout d'un moment, non, c'est ton papy. Non, je sais, déjà, j'ai pas de papy. De une. Et de deux, je sais qui c'est. C'est mon père.
Je pense que je suis bien placée.
Mais même les parents d'élèves. Et même quand c'était ma mère, c'est ta nounou. Non, c'est ma maman. Toujours dans le besoin de réaffirmer. Genre. Mais ça m'a pas plus traumatisée, plus que ça. C'est plus tard que, en fait, ça, je pense que c'est des micro-agressions qui sont restées. Ça se règle, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est des choses où, au niveau identitaire, c'est bizarre quand, dès le plus jeune âge, t'es toujours obligé de dire, de devoir affirmer et limite prouver aux gens que ça. Donc, j'ai grandi dans ce village, j'étais au collège dans ce village, et ensuite j'ai déménagé à Nice, et là, dans une ville, tu sens vraiment la différence. C'est-à-dire que nous, on est très préservés, tout le monde connaissait tout le monde. Et, par exemple, le sexe, c'était pas du tout... c'est pas un sujet, en fait. J'étais pas intéressée. Et c'est assez intéressant pour la suite, du coup. C'est vraiment très différent. Moi, je suis arrivée dans un collège. J'entendais des choses, je comprenais pas, en fait. Premier jour, je vois une fille qui pleure et tout. « Mon cousin, il sait que j'ai sucé un tel. » Et moi, j'étais là, je fais « Sucé quoi ?» Je comprenais pas. J'étais une extraterrestre parce que... Bizarrement, même si je suis restée enfant très longtemps, j'ai fait à 12 ans, je faisais 1m73. Maintenant, je fais 1m75. Donc, je veux dire, j'étais une girafe. J'ai commencé à avoir des formes, bon, pas une grosse poitrine, mais j'ai eu des formes pareilles assez tôt. Mais moi, dans ma tête, j'étais bébé. Oh. Ouais, non, mais même jusqu'à 15 ans, j'étais encore bébé, quoi.
Et dans ton village, tout le monde avait cette mentalité assez jeune, on parle pas de sexualité. Et ouais. J'imagine que c'était assez homogène aussi en termes de couleur dans la cour de récré par rapport à Nice.
Non, Nice c'était beaucoup plus mélangé parce que je me suis retrouvée dans un collège où ils avaient eu la merveilleuse idée de mettre tous les enfants de nouveaux immigrés en même temps dans la même classe. Autant te dire que ça ne marche pas. C'est-à-dire que
Hashtag diversité.
Ouais, mais alors comment te dire, les Russes et les Noirs dans un groupe hein, de couleurs, ça marche pas. Les Tchétchènes et les Russes, ça marche pas. Tu rajoutes des Portugais et des Roumains, je peux te dire qu'il y avait des descentes de police presque tous les jours, à la sortie du collège.
Ah ouais.
C'est-à-dire que quand il y avait les racailles du lycée, enfin, les cailles du collège, déjà, je voyais comment ils traitaient les filles, à leur toucher, leur tirer les strings et tout machin. Donc là, au lycée, enfin, dans ce collège-là, en tout cas, j'ai fait qu'un an, j'avais dit, je vais te taper. En plus, j'étais grande, du coup, je l'ai un peu confortée dans mon « je vais taper », genre, c'est vrai. Et du coup, j'ai tenté un truc, genre, je mettais des coups de coude, j'écrasais le pied, je mordais et tout. Et un jour, j'ai littéralement pris un mec par le col, alors qu'il faisait deux fois ma taille en largeur. Je l'ai pris par le col, je l'ai collé contre un mur parce qu'il embêtait une copine à moi. Il me fait « mais t'es folle ?» Je fais « ouais, je suis folle !» Il était balafré, mais vraiment, il venait de la Côte d'Ivoire, il était balafré et... les dents très écartées, qui donnaient un côté un peu requin. Et il était là, il essayait de me faire peur et tout, je sais pas pourquoi, je fais, je m'en fous, ma mère était commissaire de police à la brigade des mineurs au Brésil, tu crois quoi?
Et donc c'était une stratégie
Ah, c'est une stratégie. Parce ouais. que autant je n'avais pas besoin dans mon collège, mais après, de l'école primaire au collège, je sais que j'ai eu beaucoup d'affection pour il s'appelait Nicolas. Il était, je crois qu'il était d'origine hindoue, mais c'est pas sûr, il était adopté par des parents blancs. Et je me rappelle avoir beaucoup pris sa défense à l'école. À l'école, j'ai toujours été un peu une justicière. Alors qu'au début, je suis arrivée, j'étais une victime. Je me faisais taper et tout. Ma mère, elle a fait quoi? C'est quoi ces bleus? Non, je sais pas et tout. Genre. La prochaine fois que tu vas avec un bleu, maintenant que t'as des Doc Martens, c'est moi qui te fais les autres. Ah voilà, j'ai commencé à donner des coups de pied. des gros coups de pied. C'est-à-dire que je t'explique, elle avait une grosse Mercedes. Elle venait chercher à l'école. Il y avait toutes les mamans qui attendaient ma mère pour l'engueuler. Elle fait ouais, elle a fait des bleus à ma fille et tout. Et leur mère, elle descend la fenêtre. elle dit, elle écoute ce qu'a dit la maman, donc oui, votre fille, elle a fait, elle a donné un coup de pied à ma fille, ou je sais pas quoi, elle a fait écouter, avec son accent. Écoute-moi bien. Avant, c'était ma fille qui revenait avec des bleus tout la jambe. Aujourd'hui, j'ai m'en fous. C'est, et en plus, la partie, elle fait, oui, mais bon, j'ai m'en fous.
J'imagine trop, tu as la main au volant, comme ça.
Mais c'est exactement ça. Et elle remontait. En plus, c'était automatique, donc elle a juste appuyé sur le bouton.
Mais c'est un même, en fait.
J'ai m'en fous. Et du coup, c'est à ce moment-là, donc je suis passée de victime à,
pas bully. De la récré.
Pas du tout terreur, mais c'est non, juste qu'en gros, personne m'embêtait, tu vois. Parce qu'à côté de moi, j'étais très grande. Non, j'étais très grande. Le mec le plus grand de la cour, il s'appelait Mathias. Et je faisais des concours de bras de fer avec lui sur la poubelle verte. Alors autant te dire que les autres, du coup, ils n'osaient pas trop approcher. Mais, enfin, Marie, elle fait des concours de bras de fer avec Mathias. Comment te dire que, du
on
coup,
pas tirer,
on te laisse tranquille. Et en fait, Nicolas, il était très grand. Et je me rappelle, je me fâchais et je le protégeais vraiment alors qu'il était beaucoup plus grand que moi. Déjà à cet âge-là, quand même, j'étais toute petite, quoi. Je ressentais tellement l'injustice que c'était plus fort que moi. J'allais me taper pour lui, quoi. Moi, j'étais l'exotique silencieuse. J'étais une enfant très... Enfin, assez solitaire, mais pas seule, comment dire. Déjà d'une, parce que j'avais une amie imaginaire. Elle faisait tout ce que j'avais envie de faire. Techniquement, parce que c'est mon amie imaginaire. Tu peux lui dire n'importe quoi, elle allait le faire. Donc, en fait, j'étais l'amie de tout le monde. Et en même temps, j'avais pas vraiment d'amis que à moi. J'ai été... beaucoup de jalousie aussi, parce que j'étais première de classe. Donc une fois, mes copines m'ont dit « Ouais, on va plus être ton amie, parce que t'es première de la classe, et t'es jolie, et t'es amie avec les garçons. » Si je suis amie avec les garçons, c'est peut-être parce que je me moque pas d'eux et que j'accepte d'aller les voir. Si je suis première de la classe, c'est pas vraiment ma faute. Et ah oui, on est jalouse de tes cheveux. Alors à l'époque, j'avais les cheveux très très longs, mais ma mère, elle me faisait une tresse dans un foulard. Donc en fait, j'avais des vagues. Donc je suis née blonde, et très vite, un été, je suis revenue trop blonde, selon ma mère. Parce qu'avec le soleil, ça a blondi encore plus. Et du coup, elle m'a fait une couleur. Je suis devenue rousse. J'ai dit, no way. C'est dead. Je reste pas comme ça. Moi, je suis pas rousse. Non, rien contre les rousses. Hein. C'est juste que ça m'allait pas du tout. Par rapport à ma carnation, etc. Et du coup, elle m'a décoloré les cheveux pour retrouver un blond. Enfin, du coup, je me suis retrouvée avec une teinture. Et donc, j'ai commencé à me décolorer les cheveux. J'avais 13 ans. Et en plus, je pense qu'elle a commencé à sentir que je devenais plus totalement blonde comme les blés. Du coup, ça lui posait un gros problème de plus avoir son bébé blanc. Qui était sa fierté. Pourquoi ? Par rapport à sa famille. Parce que quand elle est partie, tout le monde disait qu'elle était folle, qu'elle allait finir avec des tonnes d'enfants, qu'elle allait revenir chez sa mère. Elle s'entend très mal avec sa mère. Et donc c'est pour ça qu'elle est partie à 12 ans. Elle lui a dit « Tu reviendras avec une tonne de marmaille pour que je les éduque. » Et au final, quand elle est revenue, c'est uniquement quand elle était avec mon père, qui était blanc, avec son bébé blanc, donc moi. Et ma mère, elle est... Ma grand-mère, du côté de ma mère, elle est blanche. Et en fait, c'était un mariage forcé avec mon grand-père qui était noir. Et donc, ses premiers enfants, dont ma mère, ils sont quatre, elle les a reniés un peu. Elle les traitait de macaques, était hyper raciste. Et en fait, elle a renié toute sa haine du mariage arrangé. Elle l'a refoulée, elle l'a rejetée sur ses enfants. Et donc, elle a toujours parlé de leur couleur de peau. Elle a toujours été très, très raciste. Donc, ma mère est partie très jeune à cause de ça. Parce que, en l'occurrence, son père, il est mort quand elle avait 6 ans. Donc c'est-à-dire qu'elle est restée à peu près 6 ans avec sa marâtre un peu. Et j'ai jamais créé de lien avec ma grand-mère, même si beaucoup disent que j'aurais pas dû avoir ça en moi. Mais finalement, je l'ai quand même, parce que c'est assez grave. Et donc en fait, pour elle, c'était une fierté de retourner voir sa mère en qui elle avait beaucoup de rancœur. Dire, bah non, tu vois, j'ai réussi. Et mon bébé, il est blanc. En plus. Tu vois. Genre, je suis peut-être noire, mais j'ai fait un bébé blanc. Donc c'est vrai que je pense qu'elle a eu beaucoup de mal à lâcher. Et du coup, elle m'a décoloré les cheveux très jeune. Et elle me défrisait les cheveux. Elle me faisait passer ça pour de la crème yaourt.
Et elle te défrisait les cheveux ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, de ce que t'expliquais, tes cheveux, ils faisaient des vagues, ils étaient super longs.
Non, non. Ils faisaient des vagues parce qu'on mettait de la crème fructis.
D'accord.
Des crèmes qui aplatissent, en fait.
Sinon, t'as les cheveux comment, du coup ?
Et j'ai les cheveux très frisés. Enfin, pas très frisés, mais si, j'ai les cheveux frisés. Ouais, parce qu'elle m'a défrisé assez vite en disant que c'était la crème yaourt pour relaxer les cheveux. C'était texto ce qu'on me disait.
Ça les détend, littéralement.
Ça les détend. Exactement.
Le premier défrisage, t'avais quel âge, tu penses, à peu près ?
Je vais avoir 7 ans, un truc comme ça. Et après, c'est moi qui le redemandais. C'était de la crème yaourt.
Oui, ça paraissait inoffensif.
Exactement. Même si je disais, ça pique un peu quand même. Ça arrache le cuir chevelu quand même, faut le dire. Hein. Mais c'est un vrai sujet, les cheveux, quoi. Tout ce que, je pense que tout le racisme que ma mère a vécu, par exemple, elle est arrivée en France la première fois. Elle est pas si morte que ça, ma mère, tu vois. Dans le métro, enceinte, métro parisien, enceinte de moi jusqu'au cou, il y a un mec, il l'a agressée devant tout le monde. Il lui a hurlé dessus. Il l'a giflée parce qu'elle était métisse et tout. Enfin, en gros, rentre chez toi, etc. C'était hyper violent et personne n'a rien fait. Elle était enceinte quand même.
Il l'a giflée.
Ouais, personne n'a rien fait.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar.
Et en fait, à chaque fois, ma mère a eu des embrouilles. En gros, elle s'est toujours débrouillée toute seule. Elle s'est créée une image de femme. Elle s'est pas créée, elle l'est. Femme hyper forte, parce qu'elle était commissaire de police, elle regarde des mineurs au Brésil. Donc elle a vu des horreurs, et je le sais. Elle a vu des choses horribles, j'en ai vu aussi. Ça forge. Et à chaque fois qu'elle a eu des ennuis, elle était toute seule, en gros. Les trucs d'agression par d'autres femmes, ou des trucs comme ça. Elle a toujours été toute seule, elle a toujours dû se débrouiller toute seule. Et du coup, je l'ai beaucoup, en fait, j'en ai hérité, quoi.
Pour en revenir à tes cheveux, à partir de quel moment t'as compris que c'était ce que c'était qu'un défrisage et que tes cheveux, naturellement, n'étaient pas comme ça?
J'ai compris assez tard. Finalement, quand j'ai vécu toute seule, à 19 ans, je suis partie au Canada. Et là, j'ai compris que mes cheveux, ils étaient plus du tout blonds. J'avais quand même 19 ans. Bon, j'avais un doute quand même que je m'éclaircissais les cheveux, mais je savais pas à quel point. C'est quand je me suis retrouvée avec des grosses racines frisées. Pour moi, j'avais toujours été blonde. Et tout le monde m'avait connue blonde. Du coup, avant, je me disais plutôt appeler que Marie. Maintenant, c'est Marie-Odie, parce que c'est mon vrai full prénom en entier, avec un tiré. Mais Marie, elle était blonde. Et même Marie, parce qu'il y a eu plusieurs. Il y a eu Marie-Odile dans le village. Après, quand je suis arrivée à Nice, c'était juste Marie. Et après, quand je suis partie au Canada, c'était encore Marie. Et après, à Paris, c'est comme, je m'en fous, je m'appelle Marie-Odile, en fait. Mais en gros, jusque-là, elle avait toujours été blonde. C'était Marie, grande, blonde, frisée, ou bouclée. Parce que du coup, j'avais quand même des boucles, j'avais pas les cheveux. Elle me défrise pas les cheveux pour les avoir raides, mais pour les avoir ondulés ou bouclés. Pas frisés. Parce que frisés, ça, pour elle, son truc, c'est tu fais créole. Et fallait pas que je fasse créole. Fallait que je reste blanche. Et pour elle, je pense que c'était un moyen de me protéger de tout ce qu'elle avait vécu.
Qu'est-ce que ça veut dire faire créole? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire créole, d'ailleurs?
Pour elle, ça veut dire créole, c'est... Pour elle, c'est le métissage noir et blanc dans sa tête, que ça se voit. Pour elle, c'est une trace du métissage.
On va faire un petit point typologie, terminologie des termes pour désigner les couleurs au Brésil.
Oui.
Du coup, comment est-ce qu'on appelle les différents types de métissage?
Je les connais pas du tout tous, mais il y a le moula. Mon grand-père, du coup, il était qui est issu de l'union d'un esclave avec sa propriétaire blanche. Lui, il est métisse. En revanche, ma mère, elle est déjà mulâtre. Parce qu'il est métisse. Même s'il était noir, il était métisse.
D'accord. Donc, un métisse noir et blanc plus une personne blanche, ça fait un mulâtre.
Comme c'est le Portugal, en fait, qui a fait la classification comme les pédigrés, en fait. Je connais aussi le terme cafuz. C'est l'enfant de l'union entre une amérindienne ou un amérindien et une noire ou un noir. Mais après, en termes de terminologie... Enfin, t'as des couleurs, c'est à dormir dehors, hein. Blanc grillé du soleil, ouais, couleur chocolat, couleur café, couleur café au lait. On parle plus en couleur, en colorimétrie, qu'en vrai métissage. Enfin, qu'en vrai apport génétique.
J'ai un ami qui me disait que le Brésil, c'était une société pigmentocratique, en fait. Exactement. Que en fonction de ta couleur de peau, t'étais plus ou moins bien vu socialement.
Parce, en fait, ça s'explique dans l'histoire. C'est une fois qu'ils ont été affranchis... Ça s'est vu beaucoup aussi à Rio. Les points d'entrée, c'était souvent par Bahia, le nord-est, et à Rio. Et en fait, quand ils ont été affranchis, ces gens-là, on les a laissés tout seuls. Mais le racisme était toujours là. C'est pas parce qu'on abolit l'esclavage qu'il n'y a pas de racisme. Et en fait, le racisme est quand même l'héritier de l'esclavage. C'est-à-dire que c'était une force de travail, ils n'avaient aucun droit, rien du tout. Ok, on les a affranchis, ils avaient en théorie les mêmes droits, mais dans la pensée des gens, ils n'allaient pas leur donner un travail comme ça. Enfin, c'était des bienfaiteurs, c'était les catholiques qui allaient dans un côté charité. Quand je ne suis pas sûre que tous les catholiques étaient comme ça, hein, mais comme ça. Mais c'est des gens, ils se sont retrouvés de fait dans une situation d'esclaves à précaire, sans. Ben, du coup, ils n'étaient plus logés, puisqu'ils appartenaient plus à leur propriétaire. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est souvent les communautés les plus. Dans des situations les plus précaires. Et les natifs, ben, ils sont pour d'autres raisons repoussés, toujours déplacés, etc. Et donc, les deux ont des revendications, c'est sûr. Mais parfois, elles ne vont pas forcément ensemble, parce que du coup, ça veut dire que les logements sociaux, ils vont aller acquis. Aux natifs ou aux afro, tu vois. Enfin, et c'est pas forcément que les afros, mais c'est une manière de vraiment voir de façon manichéenne, c'est un peu ça, quoi. Enfin, ça, c'est très ancré en moi, parce que j'ai, après, dans mes études, dans mon parcours d'études d'histoire de l'art, ça a germé dans le sens où j'ai pris les arts d'Afrique. Et en fait, j'ai réussi à reconstruire, quand je suis tombée en arts d'Afrique, on a commencé à parler des statuettes et des différentes croyances. Et notamment celle des Yoruba. Dans les Yoruba, il y a les Orishas. Et en fait, ça existe au Brésil. Je fais, mais on a pareil au Brésil. Et j'étais comme. Enfin, moi, dans ma culture, avec ma mère que j'ai, elle m'a beaucoup transmis ça, ses croyances et tout. Et ça fait partie de moi. Alors, ça peut paraître folklorique pour la plupart des gens en France. Mon copain, il peut rire ou quoi. Mais il n'empêche que oui, moi, je crois à tout ça. Et pas dans un sens totalement aveugle. Mais il y a un côté très nature, un côté explication des choses, et un côté croire en soi, un côté positif. Et donc quand j'ai vu ces arts, les Orishas, et j'en vois que le dieu de la guerre, il s'appelait Ogou, et j'étais comme, Ogun, on l'a au Brésil. Bon, il y a un N en plus, mais on l'a au Brésil. Et plein de choses comme ça, je suis allée rechercher, et j'ai fait, mais waouh, tous ces liens qu'on a avec l'Afrique. Et au Brésil, depuis les années 80, il y a quand même un jour de reconnaissance de l'apport de l'Afrique à la culture brésilienne. Depuis les années 80. Bon, même si c'est très raciste comme pays, il y a quand même des... Bon, un peu, c'est discutable, mais bon, il y a quand même une reconnaissance de cet apport-là. Et du coup, c'est comme ça que je me suis plongée dans cette histoire. Et je me dis, si ma mère, elle m'a transmis ça, je pense que quand même, parce que si elle est Yoruba, c'est peut-être parce qu'il vient de ces régions-là, du coup, mon grand-père. C'est comme ça que je l'ai reconstruit. Moi, ce que je me suis rendu compte dans mes études, c'est que en art, en histoire de l'art, c'est que cette anthropophagie culturelle... qui date quand même des années, je crois que c'est 1928, mais je suis pas sûre, parce que ça date, eh bien, ça fait plusieurs, peut-être 10 ans, qu'on parle d'hybridisme, l'hybride en art. Sur le plan des médiums, on mélange la peinture et la sculpture, on mélange la photo et la peinture, on mélange. Mais c'est quoi le mélange? En fait, ça veut dire que c'est un hybride, et c'est quoi l'hybride? Le métis, il est hybride aussi. Le Brésil, c'est un pays hybride aussi. C'est un pays construit, mais hybride. Et l'anthropophagie culturelle, elle dit que tu intègres, en fait, tu digères et tu sors quelque chose d'hybride aussi. Et du coup, en fait, on le dit pas, c'est peut-être pas connu, parce que les textes sont pas souvent traduits, tout ça. Mais c'est vrai, en fait, dans l'histoire de l'art, ce que tu vois maintenant, tout le monde s'inspire de tout le monde. Le postmodernisme, c'est un peu ça, le fait de pouvoir s'inspirer de tout le monde et de refaire à sa sauce, bah, c'est un peu de ça aussi. C'est-à-dire que tu l'as digéré et tu as ressorti quelque chose. Je pense que la question de l'hybride, elle est en ce moment un peu mise en pause vu tous les problèmes mondiaux qu'on a au niveau des réfugiés, des guerres, etc. Mais juste à, même si ça a toujours existé, mais avant c'est vrai que c'était un peu plus mis en lumière et j'ai beaucoup lu là-dessus en fait qu'on va vers plus de ça, plus d'hybride et que c'est un peu le futur. Après je vais un peu loin, mais ça, j'ai vu ça dans un colloque donc peut-être que c'est un petit peu perché, un truc de branleur intellectuel, mais.
Est-ce que toi tu te sens métisse ou hybride?
Moi je me sens vraiment hybride. Parce que quand on me dit tu viens d'où, ça me met en panique. Donc je dois dire aux gens, je suis née en Guyane, de mère brésilienne. Mon père, il est français. J'habitais un peu au Brésil, mais parce que j'y allais quelques raisons. J'ai étudié en France, mais à la maison, mon éducation est totalement brésilienne. Du coup, quand on me dit Marie la brésilienne, ben c'est pas vraiment ça. Et quand on me renie mon côté brésilien, je me dis ben, pourquoi tu fais ça? Si t'as pas connu le coup d'Havaianas, ouais, l'Havaianas qui vole à travers la maison pour te corriger. Et je me sens différente. On me dit souvent, ah oui, t'es hyper particulière et tout, t'es unique. Enfin, pas forcément t'es unique, mais t'es différente, ça, j'ai toujours senti. Mais j'ai jamais eu de problème avec ça parce qu'on m'a toujours dit, l'exclusivité c'est bien. Ma mère m'a toujours dit, si t'es différente, c'est pas un problème, etc. Donc ça, c'est cool. Mais pour se définir, ça a été très compliqué parce que du coup, fallait toujours affirmer c'est mon père, c'est ma mère. Quand je me baladais avec mon père, on me prenait souvent pour une russe à Nice quand j'étais blonde. Je passais toujours pour une russe. Les mecs, ils s'arrêtaient en grosse BM, au cliché, en grosse BM, ils commençaient à parler russe. Je fais, je parle pas russe. Et moi, comment? Tu es russe? Non, toujours pas. Mais si, tu as le visage de russe, tu es russe. Non, toujours pas. Du coup, j'ai appris le russe pour dire je ne suis pas russe.
Et ça se dit comment?
Я не русская. T'imagines, les gars, ils pensaient que je les prenais pour des cons, quoi.
T'avais un super accent, j'imagine.
Et du coup, quand je me baladais avec mon père, quand j'étais plus grande, du coup, on me prenait pour sa pute russe. Si je me baladais avec... Ça a choqué ma mère, on se baladait en famille, donc mon petit frère, moi, mon père et ma mère. Moi, j'étais avec mon père devant, c'est pour son anniversaire, ma mère était derrière avec mon petit frère, et personne n'arrivait à voir qu'on était une famille, en fait. Tout le monde disait, regardez cette pauvre jeune fille et tout, elle gâche son avenir avec un vieux comme ça et tout. Et ma mère, rien, elle fait, mais c'est sa fille, c'est con quoi. C'est vrai, au niveau comment se sentir, ben, du coup, bah ben, oui, je suis une hybride, mais aujourd'hui j'ai choisi de me mettre dans plusieurs cases. Je rentre dans plusieurs cases.
Comment en fait ça s'est. Comment tu l'as vécu toi? Le fait de ne pas être considérée comme afro-brésilienne ou afro-brésilienne française?
J'ai dû l'affirmer, j'ai dû beaucoup le montrer ces derniers temps, comme renoncer à me faire des brushings, renoncer à me faire des couleurs, enfin décolorer les cheveux. Ça a été très dur pour elle, parce que pour elle, elle m'a élevée comme une blanche. Et en fait, je m'en suis aperçue quand j'ai regardé mon petit frère et j'ai vu comment il s'habillait. Et elle, quand il était petit, elle lui disait toujours, elle l'appelait petit noir, en portugais, neguinho, affectueusement. Elle lui disait tout le temps qu'il était noir, alors qu'il est métisse plus mat que moi. Mais en fait, elle l'a mis dans cette case, comme moi, elle m'a mis dans cette case de blanc. Et en fait, elle a fait ça pour l'aider. Parce que quand à l'école, on lui a dit « ça noir », un truc comme ça, il était tout petit à l'école primaire, il a dit « je sais, ma mère me dit tous les jours ». Qu'est-ce que tu veux dire de plus quand un gamin, il a cette répartie-là? Tu peux pas le toucher si... Donc c'était un moyen méchant de lui faire du bien, pour qu'en fait, il fasse ses armes, parce qu'elle, elle connaissait ce qu'il allait connaître. Alors que pour elle, moi, j'allais pas le connaître du tout. Parce que... Ça se voit pas tout de suite, alors que finalement, je me suis rendu compte après qu'en effet, elle m'a éduqué comme une blanche. Et lui, comme un noir, toute sa vie, elle lui a dit qu'il était noir. Lui, dans sa tête, il est noir. Moi, non, elle me l'a jamais dit. Donc c'est pour ça que j'étais surprise. À chaque fois, les gens, ils me regardaient. Parfois, ils regardaient la racine de mes cheveux, même quand j'ai un brushing, ça se voit. Si tu connais vraiment, tu regardes la racine des cheveux des gens. Ça, c'est un truc de métis. Tu le regardes pour savoir. Ça, tu vois tout de suite les gens, ils ont mis un tissage, une perruque. Même... Tu peux tout savoir. Il y a un mec, une fois, j'étais en train de travailler chez Zorowski. Et il regarde la racine de mes cheveux, il fait « Vous êtes pas française. Vous êtes créole ?» Il me fait « Non, mais parce que je connais quelqu'un qui vient des îles et tout. Elle est blanche, elle a les cheveux clairs aussi, mais elle a les cheveux frisés et en fait, elle est métisse. » Ok, ouais, bah, good for you. L'anecdote assez violente des cheveux, c'est une amie de ma mère qui est venue me faire des mèches, parce que j'ai accepté de me faire des mèches blondes, enfin, un déclaircissement. Et c'est une copine de ma mère qui porte les cheveux afro. C'est pas afro mousseux, c'est quand même un peu des boucles. Et ma mère, elle lui fait, tu sais, j'ai acheté un produit pour... Parce que ma fille, maintenant, l'été, elle porte les cheveux bouclés naturels. Mais elle met une crème pour définir les boucles. Fait, j'ai acheté ça, ça vient du Brésil et tout. Et elle la regarde, elle fait, non mais moi, j'aime bien mes cheveux comme ça. Et elle lui en reparle encore. Après, elle lui fait, non mais tu sais, regarde, c'est cette crème et tout. Elle la porte sur la table, enfin, devant elle. Cette crème et tout, elle est géniale. Ma mère, ma fille, elle le met, ça fait que ça définit les boucles et tout. Ça évite qu'ils soient trop scellés, les boucles sont scellées. Elle fait, mais Maria, moi j'adore mes cheveux. Ma mère s'appelle Maria. Elle fait, j'adore mes cheveux comme ça et tout. Et la dernière étape, mais la violence extrême, elle avait les mains occupées sur mes cheveux. Elle a mis son doigt dans la prise de la crème. Elle lui a sauté sur une mèche pour lui définir une boucle avec la crème. Mais violence extrême en fait. Très drôle, mais violence extrême. C'est-à-dire que la fille, elle lui dit plusieurs fois, j'aime mes cheveux comme ça. Non, il a fallu qu'elle lui mette les doigts dedans pour les tirer. Et j'ai dit, mais maman, franchement, c'est hyper violent ce que tu viens de faire. Tu te rends pas compte, c'est du racisme presque. Tu es en train de vouloir lui changer. Et du coup, ça a commencé vraiment à éclater entre elle et moi. Mais c'est du racisme, maman. Mais non, je suis pas raciste. Je dis pas que t'es raciste, je dis juste que t'as intégré le racisme et que toi-même, tu reproduis des choses qui sont tout aussi
problématiques.
Problématiques Et je lui dis, par exemple, quand tu me dis que je suis trop créole quand j'ai mes cheveux frisés, que je devrais m'éclaircir les cheveux, etc., parce que maintenant j'ai les cheveux naturels. C'était un gros sujet de t'es plus belle quand même avant. En fait, c'est genre, en gros, je suis plus belle si j'ai les cheveux.
Quand tu passes pour blanc.
Exactement. Alors que pour moi, maintenant, je me trouve belle les cheveux naturels.
Desde o amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
Après, peut-être qu'il y a le côté, il y a eu beaucoup aussi le côté effacé, le côté sexy d'être brésilienne, en fait. Parce que dès que tu dis que t'es brésilienne, les garçons te regardent d'une manière différente. Ça y est, dans leur tête, c'est Carnaval de Rio, t'es à poil en string avec des plumes, en train de danser. Dans leur tête, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée dans les situations où genre... Donc, de toute façon, on me dit t'es pas française. C'est-à-dire que je suis blanche, mais je suis pas française. Ce qui est très bizarre, parce que... Je vais pas être victime de racisme direct, même jamais, mais de micro-agressions comme « t'es pas française ». On me le dit tout le temps « t'es pas française ». C'est quand même sur mes papiers. On me dit « oui, mais t'es pas totalement française ». Ça veut dire quoi, en fait? Je suis franco-brésilienne. Est-ce que tu l'intègres que j'ai deux nationalités et que j'ai le droit d'en avoir deux? Je suis pas chinoise. En chinoise, tu dois choisir. Moi, non. Je suis les deux. Est-ce que ça pose un problème? Donc non. Normalement, ça m'a dérangé d'être Marie la brésilienne parce qu'il y a tout le côté... l'empreinte sexy et sexuelle qui vient avec la brésilienne, sachant qu'au Brésil, alors certes, ce qui est très drôle, c'est que tu sens en soirée hein, au Brésil, peut-être qu'il y a les filles font des concours de combien plus de mecs elles vont embrasser. Ça veut pas dire qu'elles vont repartir avec un mec. Et ça, les gens, souvent, les groupes, ils sont un peu déçus là-dessus, tu vois. Mais surtout dans la situation où, limite, j'avais presque plus envie de dire que j'étais brésilienne. Parce qu'un mec dans le taxi, il va dire, mais vous venez d'où et tout, toujours, c'est tu viens d'où et tout. Faut absolument me mettre... j'ai pas du tout de problème à dire que je suis brésilienne. Maintenant, ça me cause pas de problème de ne pas être totalement française non plus. Je m'en fiche. Comme je te dis, je vois pas les couleurs à ce niveau-là. Même si maintenant, je me force à le voir parce qu'il y a des soucis et que ça m'intéresse et que ça me touche. Parce qu'il y a ce sentiment d'injustice que j'ai besoin de régler. Et ben, quand un mec dans le taxi demande « Tu viens d'où ?» Tu finis par dire « Du Brésil ?» Il fait « Ah, je verrai quand vous sortirez de la voiture. » En gros, parce qu'on va mater le boule, parce qu'on va mater les fesses. Mais tout le temps, on dit « Ah ben, je verrai quand tu vas te retourner. » Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Non. C'est-à-dire que depuis que j'ai 13 ans, on m'a hypersexualisée, alors que déjà à 13 ans, j'étais vraiment très très gamine. Dans ma tête, on n'est pas. Je me faisais drailler par le chauffeur de bus du ramassage scolaire quand même. C'est chaud.
C'est archi grave.
En fait, cette part-là de métissage, pendant longtemps, j'ai cru que ça m'avait apporté des problèmes. Parce que par rapport à mon corps, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à mon corps parce qu'on m'a sexualisée trop tôt. Je pouvais me faire draguer en même temps que ma mère quand j'avais 13 ans quand même. C'est chaud. Elle fait très jeune, d'accord, mais je me rappelle sur la place de la Comédie à Montpellier, un mec était en train de nettoyer sa veste avec de l'eau, je sais pas quoi. Et j'étais avec ma mère, surtout, on allait faire du shopping entre mère et fille, et le mec il me voit de loin, il vient et commence à dire, à me parler directement. Bon, c'est pas le problème qu'il me parle directement, hein. Et commence à dire, oui, je la trouve très charmante et tout machin. Et ma mère elle le fusille du regard, mais alors comme elle sait très bien le faire, genre, elle te tue quelqu'un avec ce regard, et elle dit, elle a 13 ans. Et le mec, tu sais ce qu'il dit? Ah pardon et tout, il part, puis après il revient, il fait j'ai réfléchi, ça me dérange pas, je peux attendre. Attendre quoi
en fait. J'ai des migraines rien que tout.
C'est-à-dire que j'ai fait, à partir de 13 ans, j'ai fait plus âgée parce que j'avais, j'étais grande, j'avais des formes et tout, et ça m'est arrivé, mais plein de fois, je me faisais toujours draguer par des mecs plus vieux. Et alors s'ils finissaient par apprendre que j'étais d'origine brésilienne, alors là c'était... C'est-à-dire que sur mon chemin du lycée, je me faisais arrêter. Après, je vais pas vous mentir, je sais que parce que je suis mignonne et tout, maintenant je le sais. Avant, je croyais que c'était juste parce que c'était marqué sur ma tête que j'étais d'origine brésilienne ou j'avais trop de forme, c'était mon corps, c'était comme mon corps. Maintenant, je sais aussi que c'était parce que j'étais mignonne quand même, au d'un moment, mais des vieux, mais moi, les garçons de mon âge, je les intéressais pas. Déjà parce que c'était pas la mode de Kim Kardashian encore. Pour eux, j'étais grosse. Mais en vrai, j'ai jamais été. Enfin, si, il y a un moment dans ma vie, j'étais grosse, mais Techniquement, au lycée, j'étais pas grosse. J'ai toujours été très sportive. Je faisais du volleyball, j'ai fait du rugby. J'ai toujours été hyper sportive. Donc j'allais au lycée, et sur le chemin, il y avait, je me rappelle, trois trucs très gênants. Le premier, c'est un vieux, vraiment, vous voyez qu'il a la cataracte, carrément. Sa grosse berline, il s'arrête, et je pensais qu'il allait demander son chemin. Il fait, non, je me demande si je peux vous revoir. Il avait 70 balais, quand même. Ça se voyait que j'étais beaucoup plus jeune. No shame. Deuxième chose, je vais au lycée. Pareil, sur le chemin du lycée. Un mec, il passe en scooter, la quarantaine, c'était marqué sur son visage. Il arrête son scooter, il me voit, il me dit, oui, je vous ai vu. Il revient, il s'arrête, il me dit, je vous ai vu. Je lui demandais si on pouvait se revoir et tout. Je regarde, je fais, j'ai 15 ans. Enfin, c'est juste ma phrase, c'est, je regarde, je fais, j'ai 15 ans. Il fait, ah, pardon et tout. Il reprend son scooter et il part. Puis en fait, non, il s'était garé un peu plus haut. Et quand j'avais continué à monter la rue, il me fait, non, mais j'ai réfléchi, moi ça me pose pas de problème, ça vous pose pas de problème. Je peux vous emmener au cinéma, vous payer le restaurant et tout. Je la regarde et je la regardais droit dans les yeux, je fais, j'ai des parents pour ça. Parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui ont les moyens. Mon père, il a travaillé toute sa vie pour ça, etc. Ok. J'ai des parents pour ça. De toute façon, j'ai un copain. Et c'était pas vrai, hein. Pas de copain. Horreur. Ah, ça, j'avais 16 ans, mais je mentis. Parce que si j'avais 16 ans, ça y est, c'était la porte ouverte.
Ah, bah, c'est légal.
Ah, mais merci. Il n'y a pas de problème, mademoiselle, alors.
Au Festival de Cannes. Ma mère adore Festival de Cannes. On y va, robe de soirée et tout, machin. On va pour. Il y a un mec qui m'arrête. Il me fait un cinéma, genre. Je suis producteur de films et tout. Et ma mère, elle veut y croire. Hein. Elle est géniale. C'est elle qui m'a poussée à laisser mon numéro. Hein. Parce qu'elle y croyait un peu. Le mec, il m'appelle. En fait, c'était pas du tout pour un film ou quoi. Mais pas du tout. En plus, elle avait. Il m'avait demandé d'où j'étais, donc je lui ai dit d'origine brésilienne et tout. Ma mère était là, donc ça se voyait en plus, puisqu'elle était là, genre c'était la preuve, genre, t'es pas française. Donc. Le mec, il m'appelle, et en fait, il voulait que je sois son. Je sais pas, sa petite gamine, en gros, pour m'emmener faire du shopping, pour être mon copain. Genre, le mec, il était clairement beaucoup trop vieux pour moi, quoi. Il voulait être mon sugar daddy. Et j'étais trop gênée, j'étais comme. Et pareil, j'avais la chance d'avoir des parents qui sont aisés, donc j'ai jamais eu ce besoin-là. Donc j'ai fait beaucoup plus âgée pendant très longtemps, ça m'a causé beaucoup de problèmes de rapport à mon corps, parce que je me disais, mais putain, mais c'est mon corps qui fait ça, en fait. Je me suis fait agresser plusieurs fois, et je me dis, c'est la faute de mon corps, en fait. Bon, après, il y a toujours le système qui fait qu'on va se demander, est-ce que ma jupe était trop courte, est-ce que j'avais du rouge à lèvres, etc.
Oui, c'est des choses que la société te pousse à intégrer, et voilà. Regarde la faute sur toi.
Et maintenant, j'ai fait ce travail avec cette psy et tout. C'est pas du tout pour attirer la compassion des gens, mais c'est juste factuellement. Maintenant, je peux en parler. En tout cas, ça, c'est une chose dont je peux en parler. Donc, j'ai été plusieurs fois confrontée à des agressions sexuelles. À 19 ans, quand j'étais au Canada, même Québec, c'est censé être safe. Et en fait, j'avais du rouge à lèvres, mais j'étais habillée en schlag. C'est-à-dire, j'avais une robe de pyjama informe. Des collants, trois collants parce qu'ils faisaient un peu frais. Et j'avais juste du rouge à lèvres, quoi. Et j'avais fait trop de courses. Pas très loin de chez moi. Hein. J'habitais un côté un peu ghetto moyen. Du côté de Côte-des-Neiges, ça s'appelait. Et il y avait un grand supermarché, j'ai fait mes courses. Et en fait, au final, il me dit, on n'a pas de service de livraison. J'avais déjà payé mes courses, mais trop de trucs. Je me dis, comment je vais faire pour marcher jusqu'à chez moi? Mais c'est pas très loin, je vais pas y arriver. Et là, il y a un mec qui s'arrête en voiture. Avec une Vierge Marie sur son coffre, et moi, en tant que brésilienne qui se rapproche de la région, je vais, ok, no problem. Deuxième fois qu'il me demande, genre, je peux vous aider, je peux vous déposer quelque part et tout. Et moi, en arrivant au Canada, on avait un cours d'initiation à la culture québécoise, on disait, les gens qui vous disent, je peux te donner un livre quelque part, c'est vraiment pour vous déposer quelque part, c'est pas pour vous violer. Donc moi, je rentre dans la voiture, je fais, bon, d'accord et tout, je veux bien que vous me déposiez au croisement de ma rue et de Côte-des-Neiges, qui est une grande avenue. Et donc, il me prend en voiture. Et là, il commence à parler un peu en anglais. Il me demande ce que je fais. Je suis étudiante, etc. Et au bout d'un moment, il y a une phrase qui revient souvent. Il me demande, est-ce que tu travailles? Non, je peux pas. Je viens juste d'arriver au Québec. Au Québec, je peux pas avoir de licence de travail. Je viens pour étudier. Après, il me revient. Est-ce que tu travailles? Je comprends pas. Au bout d'un moment, il fait, mais tu sais, les étudiantes, elles font du sexe pour de l'argent. J'étais comme, je fais pas du tout ça, en fait. Et en fait, au lieu de s'arrêter au croisement, il tourne dans ma rue, il me dit, viens, je vais te payer et tout, je me sens seule, on va chez moi. Je dis, non. En gros, il voulait qu'on... Enfin, il voulait coucher avec moi. Et il commence à passer ça en mode, je vais te payer. Et moi, j'étais pas du tout... Du coup, je dis, non, j'habite là et tout, laisse-moi ici. Ah, mais on va chez toi alors. Il arrête la voiture. j'ai essayé d'ouvrir la portière à premier réflexe, et là, c'est le pire sentiment de ma vie, je me suis sentie coincée comme un lapin, je pouvais pas sortir, elle avait bloqué les bords. Il commençait à me toucher, à mettre ses mains partout sur mes cuisses, à travers mes collants, essayer de me mettre des doigts et tout. Et je me suis tellement débattue, mais vraiment, je l'ai tapé, j'ai hurlé dans son oreille, qu'au moment j'ai entendu un clic, j'ai ouvert la portière, j'ai pris tous mes 5 sacs mégalos, je sais pas comment j'ai fait, et je suis rentrée. Et j'ai attendu à mon entrée, à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il parte. En fait, il partait pas, il restait devant l'immeuble. Du coup, j'ai appelé un ami, parce que genre j'étais en angoisse totale, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais, et tout ça. Genre, c'était horrible. Genre, imagine, dans la tête, ce que ça te dit, je me dis, putain. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que... Putain, tu te poses plein de questions. Après cette agression-là, j'ai mangé. Je voulais plus qu'on me regarde. Mais j'ai mangé, mais si c'est ce corps-là qui fait ça, j'ai mangé, j'ai fait 94 kilos, je suis revenue du Canada, ma mère l'a pas reconnue. Alors pour autant te dire, ça c'est un autre truc, mais le culte du corps au Brésil est tellement énorme, et pour ma mère, elle a déformé en culte de la minceur, pour elle c'était pas possible, elle m'a fait faire régime du camp, régime ci, régime ça. Et en fait au bout d'un moment j'ai dû lui dire, parce que comme j'étais pas capable de croiser, je voulais pas sortir, s'il y avait un homme que je connaissais pas, que ma mère connaissait mais que moi je connaissais pas, qui rentrait dans la maison, je m'enfermais dans ma chambre. Je regardais personne dans les yeux, les hommes, je croyais un regard, je fermais, je baissais la tête et tout. Enfin, ça m'a mis dans un système pas possible, que j'ai grossi. Et au bout d'un moment, j'ai dû lui dire, quoi. Ça dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? Et donc, je lui dis ça. Et bah, pour elle, c'était pas grave, en fait. Parce que toutes les femmes vivent ça. Elle a intégré non seulement le racisme, mais en plus le sexisme. Mais moi, du coup, j'étais comme, ok, donc, d'accord.
Apprendre à se pardonner. Non, ta jupe n'était pas trop courte ou tes lèvres trop rouges. Elles étaient innocentes, comme toi. Alors, quand tu as mal en toi, qu'il te vient à croire que le sale et la honte ont touché ton âme, que nulle douche et qu'aucun bain ne pourrait les laver, souviens-toi que tu n'as pas à laver ta peau de leurs péchés.
Moi, la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais à peu près 18 ans. Et en fait, c'était pas une relation amoureuse, c'était... je voulais faire l'amour avec quelqu'un avec qui j'avais confiance. Parce que j'avais tellement vu mes copines être déçues, en gros, ici, il m'a utilisé pour le sexe et tout. Et que j'avais beaucoup vécu de drames familiaux avant, je voulais pas m'imposer un chagrin d'amour. Donc, j'avais déconnecté le sexe des sentiments. Enfin, j'ai commencé comme ça. Il y avait du respect, mais pas... Et du coup, là, en fait, il n'y avait plus le respect. On m'avait retiré le... Donc, j'avais pas le truc de l'amour et tout, mais là, on m'avait retiré le respect. Et donc, après, quand je me suis mis un coup de pied au cul, en fait, pour... Parce que comme j'ai pas vu de psy ni rien, et ma mère, elle m'a dit, c'est bon, quoi. Enfin, reprends-toi, quoi. Il y a plein de femmes qui vivent ça. C'est bon, il t'a pas violé. C'est bon, maintenant, tu te... Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surcompensé. Déjà avant j'étais un peu un côté Samantha Jones comme on m'a beaucoup donné
et personnage là, de Sex and the City, la blonde hyper sexualisée, féministe pro-sexe quelque part, qui explique et qui arrête pas de montrer que en fait le sexe peut être un moyen d'émancipation des femmes.
Exactement. Et du coup à partir de ce moment là j'ai consommé du mec, mais littéralement, c'est à dire que ok on va pas respecter, ben tu sais quoi, moi je vais faire comme les mecs maintenant, je prends, je jette, je reprends, je jette. Je couche avec qui je veux, quand je veux, c'est moi qui décide en fait. À partir de ce moment-là, c'était comme ça, c'est moi qui décide. Et j'ai consommé, j'ai carrément une liste que j'ai tenue de mes conquêtes sexuelles. Bon, après, tu vois que le patriarcat est là parce que c'est compté en termes de pénétration. Alors que si tu comptes tout, je pense que on va dépasser. On va arriver à 200 quoi. Et c'est chaud quand même parce que j'ai commencé à 18 ans. Et en fait, ouais, j'étais très très Samantha Jones là-dessus, c'est comme moi je couchais avec qui je veux, quand je veux, et c'est moi qui décide. Et c'est à tel point que dans ma sexualité, il y a eu des moments, si j'ai eu l'avantage, comme j'ai beaucoup couché finalement, du coup. Après, quand même, il y a des mecs que j'ai pas respectés. C'est horrible à dire, mais il y a des mecs que j'ai pas du tout respectés. Et par exemple, moi dans ma sexualité, du coup, je me coûtais que moi, que j'étais hyper égoïste, mais ça a eu un avantage. C'est que, alors, par exemple, je ne vais pas me toucher. C'est pas quelque chose que j'ai, bah, peut-être à cause de d'autres problèmes de société, je sais pas. Mais en tout cas, avec un garçon, quand j'ai un rapport sexuel, quand je fais l'amour, je sais très bien comment je vais me faire plaisir. Et je m'en fous un peu de lui. En fait, cette partie-là de ma vie m'a permis de m'en foutre de l'autre personne, de me détacher du côté « je dois lui faire plaisir », parce que moi, je me faisais plaisir. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de me retrouver dans des situations, en gros, j'allais jouir avant le mec. Et en fait, si moi j'avais fini, c'était fini. Girl power. Ah ouais. Un mec, ils m'ont dit, mais t'es sérieux, tu vas me laisser comme ça et tout. Bah ouais.
Bonne nuit.
C'est l'exception qui confirme la règle du plaisir égoïste des mecs.
Exactement. Et moi, j'étais comme, mais plusieurs fois, il me fait, t'es sérieuse là? Bah ouais. Et je partais. Mais triomphante, quoi. Le mec, il était vraiment trop, genre, sur le cul, quoi. Et puis en plus, souvent, je disais, maintenant, tu peux partir. Ouais, je suis désolée, je vais pas me forcer. Tu vois, après j'ai eu un peu un backlash parce que du coup il y a eu une période où je me suis dit je cherche l'amour quand même, en fait je peux pas le rejeter toute ma vie, genre je suis en manque d'amour, c'est sûr, on m'a retiré le respect, je l'ai repris moi-même de cette manière, mais finalement ces personnes-là, même si je les utilisais, je sais très bien qu'elles m'utilisaient aussi, j'ai jamais brisé de cœur, voilà, peut-être j'ai blessé des égos. Mais j'ai jamais brisé de cœur, je me suis jamais amusée avec un mec qui commençait à avoir des sentiments avec moi, j'ai dit voilà, non. Si je te donne pas aussi d'attention, je peux pas donner ce que tu veux, donc on arrête là. Et du coup, il y a quand même un moment où je me disais, je veux de l'amour aussi en fait, je vais arrêter de me mentir à moi-même, je peux pas... C'est dur d'être... C'est très solitaire en fait d'être comme ça. Et du coup, quand j'ai cherché l'amour, je me suis jetée dans les bras de tous les connards possibles. Je crois qu'on peut pas faire pire que ça. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que je pense que je savais en moi que c'était pas le bon parce qu'il fallait que je le trompe, du coup. Il a jamais su, la plupart n'ont jamais su que je l'ai trompé, parce que je suis très douée. Voilà, les hommes, si vous ne savez pas comment faire, il faut jamais, avec l'ami ou quoi, ça marche pas. C'est quelqu'un que personne ne connaît et que c'est qu'une fois, tu laisses pas de numéro, tu laisses rien du tout. R, walou. Et tu le revois jamais et tu le nies jusqu'à ta mort. Pas de photo, évidemment.
Ça laisse des traces.
Moi, si tu les photos, c'est toi qui les as. Voilà. Et voilà, tu nies jusqu'à la mort et personne ne saura rien. Voilà, très bien. Mais bon, en l'occurrence, c'était des gens qui m'accordaient pas autant d'attention que je le voulais ou tant d'amour. Et il y a eu un mec où, en fait, on m'a toujours dit, oui, t'es trop... t'es too much, en fait. Oh là là, une fille qui s'assume toute seule, oh mon Dieu, elle a pas besoin de moi, comment faire? En plus, physiquement, je fais forte. Je suis charpentée, de manière générale. C'est-à-dire que je me rappelle une fois en été, j'avais mis des spartiates, c'était à mode des spartiates, on m'a dit on dirait une gladiatrice. Je sais pas si c'est sexy ou pas, mais je vais le prendre comme un compliment.
Xena.
Après voilà, je suis Xena, je fais sympa. Et du coup, je me suis dit, bon, ça veut dire qu'il faut que je m'adoucisse en fait. Parce que moi j'étais très brute de décoffrage à me foutre dans des bagarres. Parce que non seulement j'étais une femme, donc je devais montrer que je pouvais me défendre toute seule. Et j'avais toujours ce côté vouloir intervenir dans des injustices que je voyais. C'est-à-dire que j'ai vu des mecs, ils étaient baraqués, hein, ils se faire emmerder le soir d'Halloween parce qu'ils étaient habillés en filles. Ils se sont fait emmerder, ils commencent à se faire taper. Et moi j'étais... Alors on vous dit que c'est ridicule comme, comme image. J'étais habillée en ange noir. Donc c'est une époque où j'étais hyper sexualisée, hein, du coup. Donc j'avais un legging... un peu lamé cuir noir très très moulant, une chemise en dentelle, des ailes d'ange noires dans le dos et des talons, donc j'étais encore plus grande. Et là je vois ça, je commence à courir avec les ailes qui font l'ange de la justice. J'ai littéralement sauté sur le cou de quelqu'un, je l'ai pris par le cou, j'ai fait une clé et j'ai commencé à le tirer pour qu'il laisse tranquille l'autre, et j'ai commencé à lui manger le cerveau, j'ai dit, mais t'imagines, tu te retrouves au poste de police, qu'est-ce que tu vas dire, et ta famille, ta parente, et tout, à ton âge. Et je me refous dedans, et je prends des mecs, je fais des plaquages de billets, tout, psychopathe. Et mon pote, il dit, je vais le dire à ta mère, Marie, ce que tu fais, c'est pas bien. Genre, la seule personne qui peut me raisonner à ce moment-là, c'est ma mère, tu vois, c'est la dragonne, tu vois, moi je suis une dragonnette, elle c'est une dragonne. Ou alors... Ouais, non, c'est...
Et tu fous ta mère dans l'intimité, en fait.
Arrête, elle va prendre toute la lumière, laisse tomber. Et j'étais hyper... Je me foutais dans les bagarres, quoi. j'en avais rien à faire. J'avais besoin, limite, comme si j'avais besoin de rejouer cette scène d'agression pour prendre le dessus et taper. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'une passe une agression, t'as trois possibilités, soit tu freeze, tu sais pas quoi faire, tu t'arrêtes, soit tu flies, tu fuis, soit tu fight. Moi, en l'occurrence, la troisième fois, j'avais un peu freeze et fight. Enfin, je me suis débattue plutôt, et je suis partie. Et du coup, j'avais besoin, en plus, de continuer, tu vois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est par rapport à avant encore, plus ancré dans mon enfance, où j'avais été victime d'attouchement sexuel dans un parc d'enfants, et où encore, je savais pas du tout ce que c'était. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis restée très enfant très longtemps, parce que j'ai totalement refoulé ce qui s'est passé. J'avais 7 ans, je savais rien du tout ce que ça voulait dire. Je savais rien ce que ça voulait dire. Moi, c'était juste, je voulais juste donner à manger aux écureuils. Du coup, j'étais allongée contre un tronc d'arbre à vouloir donner à manger aux écureuils, mon bras tendu, et il y a un vieux dégueulasse qui en a profité pour s'approcher en disant « Viens par là, il va venir et tout, je te donne des pommes. » Et en fait, c'est pour me trifouiller sous ma jupe, quoi. Et moi, j'avais pas du tout conscience de ça à cette époque-là, je savais pas du tout, les gens. Mais pourtant, c'est des souvenirs qui te marquent et qui sont des traumatismes. C'est-à-dire que moi, son visage, il restera ancré en moi toute ma vie. Pourtant, c'est quelqu'un que je ne reverrai jamais, que je n'ai jamais connu, j'ai jamais porté plainte parce que j'ai refoulé, parce que je savais pas ce que c'était. C'est revenu des années plus tard parce que c'était la période, on va dire les années 90, 99, 80, ouais. Et jusqu'au 2000, c'était vraiment la période où toutes les affaires de pédophilie, on parlait que ça. Et du coup, c'est là, je fais, ah, mais ça m'est arrivé aussi. Du coup, c'est comme ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça que, comme j'ai freeze à ce moment-là, je suis restée bloquée. Je pense que tous les trucs de bagarre où je me suis foutue, c'est parce que j'avais envie de.
Venger la petite Marie.
Exactement.
Qui va pas se défendre.
Exactement, c'est pour ça.
Se défendre, d'ailleurs.
Et il y a eu un moment où, par exemple, après j'ai réfléchi. Par exemple, je sais qu'il y a eu. Une fois, quand je cherchais l'amour, il y a eu ce mec qui était hyper dans le conflit avec moi. C'est genre un redhead comme ça, t'es trop dans le conflit. Ce qui est vrai, j'étais très dans le conflit avec les hommes. Je voulais toujours mener un peu. Enfin, c'est un peu de la bagarre, tu vois. Arrête d'être comme ça et tout, machin. T'as besoin qu'on prenne soin de toi. Un côté très patriarcal que j'ai envie de maintenant, s'il me l'aurait dit. Aujourd'hui, j'aurais rencontré le mec, j'aurais laissé là où je l'avais trouvé, quoi, en date, quoi. J'aurais dit ciao. Au lieu de ça, je me suis dit, bon, c'est quand même moi qui dois changer si je veux trouver quelqu'un et tout. Et je me suis dans une situation où ce mec m'a violée, littéralement, dans le sens où on faisait l'amour. J'étais toujours dans cette logique, je faisais l'amour quand je voulais, du coup, voilà. Sauf qu'en l'occurrence, moi, là, j'avais fini. Comme à mon habitude, on va dire. J'avais plus envie. Et mec, non. Et on continue. Et je suis comme, non, je veux pas, quoi. Et là, rien du tout. Il s'est inséré sans mon accord ni rien. Il a continué. Et j'étais en tension, du coup, comme une femme qui veut pas avoir un rapport. Du coup, ça fait hyper mal. Et c'est la première fois où, du coup, il m'a pas du tout écouté. Et moi qui avant, du coup, par rapport à cette agression, je m'étais en mode, j'en m'en fous, c'est mon plaisir, etc. Et là, il m'a dépossédé ça, quoi. Mais j'ai pas voulu que... En fait, j'ai pas laissé ça me toucher plus que ça. Si, ça fait mal, je sais ce que c'est. Mais j'aurais dû le poursuivre en justice, mais je l'ai pas fait parce que je me souviens plus du tout de son nom. Aucune idée. Je peux m'oublier. Son nom de famille, je veux dire. Et je lui ai dit, en fait, par message, parce que quand il était vraiment très pushy, je lui ai fait, tu sais que là, quand même, c'est pas bien ce que t'as fait, quoi. Il me dit, mais non, et tout, machin, c'était bien, c'était serré. Tu m'étonnes. Hello, c'était serré. Normal, je voulais pas. Cimer, le gars. Et du coup, mais je lui ai dit quand même par message, parce que quand je l'ai quitté en disant, mec, t'es chiant, en fait, tu me casses les pieds, toujours vouloir faire ce que tu veux que je fasse, enfin... Je fais non, moi je suis pas comme ça que je marche. Et je changerai pas pour toi. Et du coup, il commence à m'insulter évidemment comme un mec connard total. Et je lui fais by the way, ce que t'as fait, ça s'appelle du viol. Donc je te le dis, je vais pas aller jusqu'à dire que tu m'as violé d'une manière dans ton imaginaire tu crois ce que c'est. Tu crois savoir ce que c'est. Mais juste que tu le saches parce que t'es. Genre j'espère que tu feras pas ça la prochaine, tu vois. Et pour moi, j'avais dit ça, j'avais tout dit. J'ai pas senti besoin de le faire. J'aurais dû parce que. Il faut les dénoncer, ces mecs-là, mais c'était avant MeToo et tout. Et moi, MeToo, ça m'a pas fait que du bien quand c'est sorti, parce que moi, quand j'en parlais, il y a un moment, j'ai vraiment besoin d'en parler, comme je vous en parle aujourd'hui, et à l'époque, c'était hyper choquant. Mais on parle pas de ça, mais pourquoi tu me dis ça, c'est gênant et tout. J'ai des copines qui m'ont dit, tu devrais pas parler de ça et tout. Et du coup, t'imagines, tu te sens brimée parce que ça ressort enfin, t'arrives à en parler. C'est ça, c'est genre, non, je veux pas l'entendre. C'est... Exactement, c'est gênant, je veux pas l'entendre. Et après, le MeToo, tout le monde sort des histoires. Moi, comment je l'ai vécu, c'est genre des histoires en carton par rapport à ce que j'avais vécu. Je dis comment je l'ai pensé à ce moment-là. Pour moi, c'était genre, c'était rien par rapport à ce que j'avais vécu. Genre, en gros, un frotteur, j'ai fait lol.
Tu vois.
Genre, j'étais en mode frotteur, ouais, lol. Enfin, frotteur léger, on va dire. Je lui ai dit ça, genre, il s'est un peu. Parce que moi, ça m'arrivait et tout, mais genre, je l'ai regardé droit dans les yeux, je fais, mec, tu fais quoi? Bon, un mec, une fois, il m'a touché le téton, je l'ai poussé, il me fait, tu me tapes? Tu me touches le rein, c'est normal, je vais rien faire. Et du coup, je vois ça et j'étais choquée parce que j'ai dit, putain, mais moi, je suis pas une star. J'ai commencé, je sais qu'il y a plein de femmes qui ont commencé avant et tout, mais quand j'en ai parlé à mes copines, à des gens autour de moi, c'est comme, non, c'est gênant, arrête. Et là, MeToo, tout le monde a une histoire à sortir et tout. Et là, on peut l'entendre, tu vois. Et ça me fait beaucoup de mal à ce moment-là. Mais finalement, je me dis, c'est bien. Bien sûr, c'est génial parce que ça a permis de libérer la parole. Mais c'est dommage qu'avant, quand tu voulais en parler, c'est comme ça que je l'ai reçu, en fait, de la part de mes congénères femmes. Ça, c'est comme les filles qui ont mis un MeToo et qui... je me retrouvais dans une bagarre au Nouvel An. Lol. Mais cette fois... Non, je suis dans une bagarre. Non, mais alors, c'était hilarant parce que là, pour le coup, j'étais habillée pour le Nouvel An. J'avais un beau pantalon de tailleur, des chaussures à talons aiguilles, vernis noir, pointu devant, un soutien-gorge un peu bustier à paillettes et une veste un peu à la Yves Saint Laurent look, tu vois. Une grosse fourrure. Vintage. Et je sais pas, mon mec il s'est retrouvé dans une bagarre. Et je fais putain. Et du coup, je suis allée chercher dans la bagarre. Et un mec il voulait pas lâcher mon mec. Et du coup, je suis en mode ok. Y'a pas de soucis.
T'as gardé les talons ou pas?
J'ai gardé les talons. Bah, oui. Je l'ai même pas cassé. Je me suis tombée dans une bagarre, mais c'est-à-dire que. Et c'est hilarant. T'imagines une fille habillée avec un soutien-gorge à la paillette et une fourrure qui se fout dans une bagarre et qui dit: Moi j'ai pas peur, tu sais pas qui je suis, hein.
C'est... On adore.
C'est... Genre, mais parfois quand tu me dis, tu fais: mais t'es noire en fait, Marie. Comment tu parles? Genre, tu vois, genre quand tu parles de la angry black woman, je suis comme: ouais, ça m'arrive d'être comme ça, ouais. Tu vois? C'est-à-dire que le mec, je vais, tu prends. Genre... Et comme au collège, en bas, au collège, genre. Moi j'en ai rien à foutre, moi j'ai fait du rugby, je mets un plaquage nickel, j'ai pas peur, vas-y tape-moi, je m'en fous. Et le mec, je lui ai mis un plaquage, je me suis roulée par terre, je me suis mis un bout de goudron sur le front. Je me suis fait taper. Mais c'est-à-dire que j'ai traîné un mec par terre, et genre je le lâchais pas, je le prenais comme ça. En prise, tu peux rien faire. Et il y a quelqu'un qui me fait, nous séparer. Déjà, d'abord c'était plus grave, tu vois, j'ai comme, ah non, il y a une fille là. Et là, il y avait d'autres filles. Elles ont rien dit. C'est tes potes qui foutent la merde et qui tapent une nana sans problème. Et toi, t'es là, tu fais... Tu dis même pas arrêter. Allô? Parfois, ça me sidère la non-solidarité entre les femmes.
Et Marie-Odile, du coup, tu parles beaucoup de ta mère. Et est-ce que tu penses que ta mère t'a transmis, d'une manière ou d'une autre, des peurs, des angoisses, des traumas, en fait, de ce qu'elle a vécu, ou d'une manière un peu plus globale, au niveau de ta généalogie, est-ce que tu penses avoir eu des traumas intergénérationnels?
Oui, en effet, elle a été commissaire de police à la brigade des mineurs, donc au Brésil, dans les années 80. C'était une femme belle, années 80, dans la police, donc elle s'est fait respecter parce qu'elle a bien elle a fait son taf, quoi, elle a dû surjouer. Mais du coup, en fait, son travail, c'était d'aller dans les lieux de misère un peu. Pour sortir des jeunes filles de la misère où elles étaient prostituées de force. Elle était confrontée à la corruption de personnes qui donc prostituaient des jeunes filles et qui lui disaient: tu dis rien et je te donne l'argent ou sinon je te tue presque. Et elle voulait pas rien dire. Donc elle a été face à ce type de violence, la violence du Brésil tout simplement, qui est quotidienne. Et c'est une violence dont parle Ta-Nehisi Coates, dans ça s'appelle en français Une colère noire, et il le dit, cette violence sur le corps noir, on le vit aussi au Brésil, la violence est partout, et en fait c'est parce que si c'est pas entre vous, ce sera quelqu'un d'autre qui te l'imposera, qui imposera à ton corps. Très important, c'était une lecture très très importante pour moi, qui m'a ouvert pas mal, qui a mis des mots sur des choses que j'avais des intuitions, et notamment sur le traumatisme de l'esclavage, parce que mon arrière-grand-père était l'était, et il y a cette étude qui dit que en épigénétique, il y a des sans modifier la séquence d'ADN, il y a des c'est inscrit dans certains gènes, en fait, c'est des marqueurs de traumatisme, c'est le stress qui va le marquer. Et du coup, c'est possible, tu le transmets à tes enfants. Et c'est dit, par exemple, pour le cas de l'esclavage, c'est un traumatisme qui a duré des années, sur plusieurs générations. Et donc, en fait, je le porte aussi en moi. Et je pense que, puisque mon arrière-grand-père était un esclave, je pense que même si il s'en est bien tiré dans le sens où il s'est marié, enfin, il était amoureux, elle l'a affranchi. Ça veut pas dire que c'est... Enfin, il y avait une vie avant, quand même, il était
esclave. Ça efface pas la douleur.
Ça efface pas la douleur. Sa propre douleur et celle d'être arraché à son pays. Tout ça, enfin, le déracinement. Et ça, je sais que je l'ai en moi. Quand j'étais gamine, que je me faisais des amis imaginaires, il y avait toujours un vieux noir, le plateau Vel, que j'imaginais être mon grand-père. J'ai toujours eu ça avec moi. Et certes, je n'ai jamais eu de fascination pour des types masculins noirs. C'est porté dans ma famille et par ma mère et des générations en générations. Je suis attirée par les hommes de type colon, d'ailleurs, blond ou grand, aux yeux bleus. Je peux pas trop y faire grand chose parce que finalement c'est presque historique dans mon cas familial. Tout le monde s'est marié avec quelqu'un, tout le monde qui avait du sang. Du sang noir, finalement, s'est marié à quelqu'un de blanc, blond, aux yeux clairs. Mon copain, aujourd'hui, est blanc, blond, aux yeux clairs. Et en même temps, ma mère, elle a eu beaucoup de traumas dont elle parle pas, mais qu'elle m'a transmis, finalement. Et je sens très bien qu'en elle, il y a cette peine de... Ben déjà, on lui disait qu'elle était ma nounou. Il y a cette peine du racisme qu'elle a vécu. Il y a aussi le fait d'avoir été rejetée par sa mère pour sa couleur de peau. Enfin, tous ces traumatismes-là, c'est marqué en moi, tout ce qu'elle a vu aussi avec son travail, elle avait peur elle avait peur qu'un pédophile abuse de moi, elle avait peur que je tombe dans un réseau de prostitution, adolescente, enfin, c'est des peurs, je savais que je devais m'en méfier, mais je savais pas ce que c'était. Et finalement, aujourd'hui, je pense que si elle me dit, ça va, t'as pas été agressée, c'était pas très grave, tu vois. C'est parce que finalement, je sais que ça doit me faire mal de voir que même si elle m'a prévenu tout ça, tu peux pas sauver tes enfants de tout. Parce qu'au final, ben, j'étais attouchée. Au final, ben, il m'est arrivé des agressions. Et elle lui peut rien, c'est pas sa faute. Mais je sais que, avant que ça m'arrive, c'était en elle, elle avait vraiment peur, mais parce qu'elle a vu. Et du coup, je l'ai en moi. Et ce côté injustice et besoin d'être justicière parfois pour des minorités, c'est à cause de ça, parce que j'ai la chance, entre guillemets, comme elle dit, ma mère, d'être claire, même si on dit que je suis pas française, je suis claire de peau, et donc je veux pas prendre la place et la peine des autres, mais je peux essayer de comprendre parce que c'est gravé en moi de manière génétique, même si ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais je sais ce que c'est. J'ai vu mon frère être maltraité, ma mère maltraité, tout ça pour la couleur de peau, des jeux d'autres gens, ce petit Nicolas quand j'étais en primaire, et moi je sais ce que je suis, je sais que j'ai ça aussi en moi, donc... C'est pour ça que c'est des causes qui me touchent beaucoup. Et c'est pour ça que j'en ai parlé en art, etc., dans mon parcours d'histoire de l'art. Et en effet, ça se transmet. Après, si on fait la paix avec, comme on dit pour l'épigénétique, si on fait la paix avec, on fait un travail dessus, on règle le trauma, et du coup, ça peut s'en aller, en fait. Et tu ne peux même pas le transmettre à tes enfants, si tu fais le travail de régler.
Tu parlais de ton côté justicière, et il s'exprime aussi dans ton féminisme. En quoi est-ce que toi, tu dirais que t'es féministe ?
À partir du moment où j'ai compris que c'était le système et que c'était pas moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidée, c'est Le sommet de la pyramide. Et d'avoir écouté beaucoup de podcasts, etc., je me suis dit, je pense que j'étais déjà féministe dans mon approche sexuelle. D'un côté, je me fais plaisir à moi et fuck le reste. Je voulais pas qu'on m'utilise, donc c'est pas bien, hein, j'ai utilisé, je dis pas que c'est bien de le faire. J'ai juste que moi j'ai marché comme ça, j'ai marché comme un mec, et je pense que ça a été mon féminisme à moi, sans savoir que c'était du féminisme en fait.
J'adopte publiquement l'étiquette de mauvaise féministe. Je le fais parce que je suis un être humain, et en tant que tel, imparfait. Je ne suis pas une experte en histoire du féminisme. Je n'ai pas l'érudition que j'aimerais avoir en matière de textes féministes clés. J'ai certains centres d'intérêt, des traits de personnalité, des opinions qui ne coïncident pas nécessairement avec les courants majoritaires du mouvement. Mais je suis quand même féministe. Je ne peux vous dire à quel point il a été libérateur pour moi d'accepter cela. J'adopte l'étiquette de mauvaise féministe parce que je suis un être humain. Je suis bordélique. Je n'essaie pas d'être un exemple. Je n'essaie pas d'être parfaite. Je ne suis pas en train de dire que je détiens toutes les réponses. Je n'essaie pas de dire que j'ai raison. J'essaie tout simplement de soutenir ce en quoi je crois, d'apporter un peu de bien en ce monde, de faire un peu de bruit avec mes écrits, tout en restant moi-même. Je suis une mauvaise féministe parce que je veux qu'on ne me place jamais sur un piédestal féministe. Les gens qu'on met sur des piédestaux sont censés prendre une pose parfaite, et quand ils merdent, on les déboulonne. Moi, je merde régulièrement, considéré qu'on m'a déjà déboulonné. Roxane Gay, bad feminist.
Et finalement, j'ai toujours un peu été, ma mère, sans se l'affirmer, finalement, me dire que si je suis différente, c'est pas grave, de continuer dans... si les gens disent que je suis bizarre, bah c'est pas grave, je suis exclusive, c'est qu'ils comprennent pas. C'est ce qui m'a permis quand même de pas me tromper, de pas faire semblant de quelqu'un que je ne suis pas. Si j'ai été que une facette à la fois, auparavant, je n'étais pas quelqu'un d'autre non plus. Et le féminisme, c'est... il était en moi et je me suis vraiment intéressée à vraiment écouter des podcasts, etc. J'ai lu Mona Chollet, Beauté Fatale, qui m'a beaucoup touchée parce que, ben, par rapport au physique et tout ce, le fait d'être... moi, je me trouve pas grosse, mais il y a peut-être des personnes qui vont me trouver grosse. J'ai fait de la chirurgie esthétique, mais pour gommer les traces des l'effet yo-yo que j'ai eu suite à mon histoire, en fait, d'avoir mangé ses sentiments. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire une liposuction, je l'ai fait. J'ai fait tout d'un coup. J'ai enlevé tous les... du genou jusqu'à la taille. Pour retrouver ma silhouette de avant les agressions, tout simplement. Avant l'agression du Canada. Pas lu tout sur le féminisme et tout, parce que le féminisme, je conçois... certes, c'est théorisé et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement... répandu à la portée, en fait, que tu peux te sentir féministe comme tu peux te sentir religieux sans aller à l'église.
Qu'est-ce qui t'a aidé, au-delà des podcasts, des livres, à réconcilier tes identités?
L'art. Ça a été le fait d'étudier l'histoire de l'art. J'ai toujours peint et dessiné sans pour autant vouloir être artiste, mais l'art, c'était, et étudier l'art, ça a été vraiment un moyen de se dire... je peux être, ça regroupe tout ce que je suis, sans me donner une étiquette particulière, je peux être tout dans l'art. Et être une art girl, ou selon par exemple parfois les amis de mon mec qui me prennent pour la fille chelou qui passe sa vie dans les musées, qui aime l'art, parfois ils me confondent un peu avec les stéréotypes que l'on a des étudiants en art. Alors je ne suis pas une étudiante en art, je suis une historienne de l'art. C'est totalement différent. Pas vraiment, mais ça me dérange pas si on me dit ça. Par exemple, si on me disait par exemple que je suis que brésilienne, ça m'embêtait. Mais par exemple, si tu me dis je suis une art girl, une fille intéressée par l'art et tout, une artie, ben ça me va totalement parce que je peux tout être dedans. Ça englobe tout ce que je suis. Ça réconcilie mes deux identités finalement. Et quand je suis là-dedans, je peux me permettre d'étudier, comme je l'ai fait en histoire de l'art, ma propre histoire, l'histoire du pays du Brésil. Parce que j'ai étudié, malheureusement, on étudie beaucoup l'Europe, l'Occident, en histoire de l'art. Malheureusement, mais non. Enfin, c'est bien, hein. C'est juste que...
Il n'y a pas que ça.
Voilà, il n'y a pas que ça. Après, on choisit, hein. J'ai pris art d'Afrique, j'ai étudié tout ça. Mais ce serait bien d'avoir un peu une initiation un peu à tout, c'est sûr. Et donc l'art, c'est vraiment ce qui m'a permis de réconcilier mes identités et de la consolider. C'est le ciment, c'est dans mes veines. Mais c'est aussi, ça a été beaucoup une thérapie quand je pouvais pas parler de mes traumatismes. En fait, je le dessinais. J'ai beaucoup dessiné. C'était un moyen de mettre en forme ce que j'avais en moi et qui était un magma de choses pas négatives, pas positives, négatives et traumatiques. Et les sublimer par l'art, ça laissait sortir de moi, quoi. L'art a vraiment été thérapeutique, finalement, sans que je le sache. Et aujourd'hui, c'est identitaire parce que ça, pour moi, ça cimente mon identité. Je peux tout réconcilier avec ça.
Et dernière question, Marioville, est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire?
Non. Dans le sens où je sais ce que je suis, mais je sais quelle couleur de peau j'ai, mais je n'ai jamais oublié, j'ai jamais omis ce que j'étais vraiment. Une hybride, hein, finalement. Jusqu'ici, je m'étais jamais posé la question. Peut-être que dans la rue, comme ça, on me perçoit comme clair. Même les gens, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient d'origine diverse, même eux me disent jamais que je suis française. Ils vont dire, t'as le teint un peu mat. Fondamentalement, en termes de colorimétrie, je suis très claire. Et pour autant, on m'a jamais dit, on m'a jamais catégorisée comme blanche. C'est bizarre à dire, mais avec les latinas, je me sens assez proche. Et on va me dire, bah t'es latina quoi, t'es latine.
Et quand t'es au Brésil, comment tu te sens?
Je me sens nickel parce qu'il y a plein de gens comme moi. Enfin, avec le métissage, pareil, c'est tellement métissé que voilà quoi. Mais pour eux, par exemple, je vais être majoritaire. Ça fait mal un peu. Parce que c'est de l'injustice. Moi, j'ai mal pour les gens qui n'ont pas cette chance. Et surtout, même si je suis majoritaire au niveau de la pigmentation de peau, dans le sens où je suis plus claire, donc on va plus me respecter, peut-être, entre guillemets, enfin, quelque chose comme ça, ben, c'est un peu injuste, quoi. Et moi, l'injustice, je peux pas. C'est pas possible.
Quand tu te regardes dans le miroir, Marie-Odile, qu'est-ce que tu vois?
Une grande femme. Maintenant, je me considère comme une femme, même si parfois je parle avec des voix de bébé, qui s'est reconstruite. On m'a tout le temps renié, donc ce que j'étais, pas renié, mais j'ai toujours dû me battre pour dire ce que j'étais. Et il y a eu un moment où j'ai éclaté mon identité en étant que la petite fille parfaite, que l'adolescente sans souci, ou alors que l'adolescente à fond dans le rock, ou alors la jeune femme qui réussit ses études, que la Samantha Jones, que la fille hyper sexualisée, hyper affranchie, on va dire. Ou alors que la fille qui a pas de chance en amour, du coup, parce qu'il y a les périodes aussi. Et puis finalement, j'ai été chaque chose. Et maintenant, à un moment, je suis comme stop. J'avais tous les problèmes que j'avais jamais réglés qui sont revenus à la surface. Et j'ai fait un travail de remettre en place les choses, de revoir mon histoire. Et du coup, maintenant, quand je me regarde là, je me dis que c'est une personne reconstruite avec plein de morceaux différents. De par mon histoire, mon patrimoine génétique, on va dire. Mais une personne reconstruite et qui commence à apprivoiser sa lumière. Parce que j'ai toujours été solaire, je pense, comme personne, rire communicatif et tout. Un peu malgré moi et en pensant que j'étais too much. Et maintenant, je sais que j'ai pas besoin d'être full Samantha Jones ou full fille intellectuelle. Je peux être tout et je peux me permettre de briller fort un moment, de briller beaucoup moins un autre moment. Et briller moins un autre moment, ça permet de mieux écouter les gens. J'ai toujours été écouter les gens, mais quand tu prends trop de place, parce que tu as besoin de l'apprendre pour t'affirmer, du coup tu empiètes un peu sur l'espace des autres, de personnes qui pensent avoir moins de lumière ou briller moins fort.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.